Bonjour à tous et bienvenue dans Papa à quoi on joue, l'émission qui va vous donner mille et une bonnes raisons de jouer avec vos enfants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 12e épisode de Papa à quoi on joue. Je suis Jean-Noël, je vous accueille pour parler d'activités à partager avec nos enfants. Et pour ce faire, j'ai avec moi, comme à mon habitude, David. Bonjour David.
Bonjour les gens.
Non, je suis le seul Jean, tu m'excuseras.
Ah bah pardon, c'est moi, tu es l'unique. Excuse-moi, voilà. Tu es un peu précieux de cette émission.
Et Arnaud n'est pas là parce que Céline n'a pas voulu rendre le micro, donc elle lui a mis un sachet de diurétique dans son café. Du coup, il ne peut pas rester sur sa chaise. Il avait oublié, voilà. Hein.
Ah, tiens.
Et par contre, nous recevons Guillaume Vendée. Bonjour Guillaume.
Salut Jean, salut David, merci beaucoup de m'accueillir dans votre espace.
Eh bien, merci à toi d'avoir répondu présent. Pour ceux qui nous suivent et qui ne te connaissent pas, en fait, tu étais déjà venu dans Papa à quoi tu joues, où je t'avais déjà interviewé sur les jeux vidéo et la parentalité.
Tout à fait. Ouais. Et je suis toujours dispo pour. Bon, les invitations, c'est toujours un grand plaisir parce que j'ai moins de préparation que quand je fais d'autres émissions.
c'est chouette,
de se sentir invité, c'est toujours agréable. Donc, grand plaisir.
On va parler donc de choses à partager avec nos enfants. Je vais ouvrir le bal. Alors, pour les deux prochaines émissions, je me suis fait une thématique. Je me suis dit, je vais me la jouer rétro gaming. Même si là c'est pas vraiment du gaming que, que je vais faire, je vais vous parler de Mario Paint. Alors Mario Paint, ceux qui ont connu la Super Nintendo sont difficilement passés à côté, même si c'était possible, hein. Alors Mario Paint, qu'est-ce que c'est? C'était à l'époque une sorte d'ovni. Mario Paint s'est sorti donc sur Super Nintendo en 1992. Et c'était un jeu, alors déjà pour le qualifier de jeu, alors il y avait un mini-jeu dedans, mais pour le qualifier de jeu, c'était déjà assez osé. Mario Paint avait cette particularité qu'il était vendu dans une énorme boîte parce qu'il était vendu avec une souris et un tapis de souris en plastique dur et une souris à deux boutons. Et le but de cette production, en fait, comme son nom l'indique, c'était de dessiner, de peindre de manière numérique. Ce qui n'est pas forcément facile avec une souris, d'autant moins encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on dessine au doigt sur nos iPads. C'est un peu curieux que je vous présente ça aujourd'hui, mais... en fait, je suis parti de cette réflexion, peut-être un peu erronée, parce qu'on ne sait pas où encore précisément va le futur de l'informatique aujourd'hui, mais je me suis dit, j'aimerais bien quand même que ma fille commence à apprendre à manipuler une souris. Et donc l'iPad, elle maîtrise, hein, ça, c'est pas un problème, mais je me suis dit, comment lui donner envie de manipuler une souris, moi qui ai un ordinateur portable avec un trackpad, comment je vais la mettre sur une souris. Et puis, j'ai eu une sorte de nostalgie, je suis allé sur des sites... qui propose des émulateurs, hein. C'est pas bien, hein. C'est pas légal, mais voilà, je suis allé sur un site qui proposait des émulateurs, et là j'ai vu dans la liste des ROM disponibles, j'ai vu Mario Paint, et j'ai dit bingo. L'émulation de Mario Paint fonctionne avec une souris, donc voilà, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, l'émulateur prend en compte la souris de l'ordinateur, donc moi j'ai juste pensé une souris USB sur mon Mac et rouler jeunesse. Donc dans Mario Paint, il y a plusieurs activités. Donc il y a le dessin libre, on a un crayon, une gomme, on a aussi des tampons et on a le fameux outil de peinture, de remplissage. Donc ça, c'est la base. Ça ne l'a pas trop intéressé. Donc elle a 4 ans, hein, là, elle a eu 4 ans il n'y a pas très longtemps. Ça ne l'a pas trop intéressé. On a aussi une sorte de cahier de coloriage avec 3 images qu'on peut donc la colorier avec donc le l'outil de remplissage, donc le pinceau. Il suffit de cliquer dans une zone et on a la zone qui se remplit avec une petite animation et qui se remplit de la couleur sélectionnée ou du pattern sélectionné, parce que voilà, c'est la Super Nintendo, il n'y a pas énormément de couleurs non plus, hein. Je crois que c'était 256 couleurs, c'était incroyable à l'époque. voilà, donc il y a des trames qui mélangent plusieurs couleurs pour donner l'impression aussi d'avoir plus de couleurs que ça. Et ça l'a bien beauté. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que, bon, on peut se dire, voilà, tu cliques pour mettre des couleurs dans des trucs, mais il faut bien aussi se remémorer que la Super NES, elle n'a pas une définition d'écran extraordinaire. Hein.
Tu m'étonnes.
Voilà, je ne sais plus la résolution exactement de la Super NES, mais on est très loin du 720p. Hein. Et du coup, ça fait des gros pixels et ça oblige, en fait, à être assez précis. Parce que voilà, ton curseur avec ton pinceau et le bout de ton pinceau, il faut qu'il soit pile au bon pixel si tu veux pas, si jamais le pixel de là où tu peins, tu le mets sur le trait noir, du coup tu peins le trait noir et ça se remplit pas, quoi. Donc, mine de rien, elle s'est hyper vite pris au jeu et c'est devenu, alors c'est pas devenu vraiment du coloriage, mais c'est devenu voilà, je transforme cette image en noir et blanc en truc un peu magique avec des couleurs improbables. Ajoute à ça la possibilité de mettre des tampons, donc il y a des tampons et donc à la place des couleurs, c'est des petites images, des petites icônes que tu peux dupliquer à l'infini. Et il y a d'autres choses aussi pour les plus grands. Il y a un petit module d'animation où on peut faire une petite animation, une petite boucle d'animation entre 3 et 9 images, ce qui est très sympa. Moi, je me rappelle à l'époque que je m'amusais à faire des Sangoku avec les cheveux Super Saiyan qui bougeaient. Voilà,
c'est l'ancêtre du GIF animé, en fait.
Exactement, c'est exactement ça. Et en plus, quand tu as fait ta petite boucle, tu peux la faire bouger sur l'image que tu as faite avant. Donc, tu peux te faire un petit poisson qui frétille la queue pour avancer et comme ça, tu le fais se mouvoir. Donc ça, c'est plutôt sympa pour les plus grands. Et la dernière chose, c'est qu'il y a un troisième petit module de musique. Et c'est de la vraie musique. C'est, tu as une portée, tu as donc des icônes en haut qui à chaque icône, ça correspond à un instrument. Et tu peux... mettre jusqu'à trois notes sur le même temps. Donc tu peux faire des accords, voilà. Et c'est alors mine de rien. Alors là aussi pour les plus grands, hein, il y a trois musiques déjà préenregistrées, on les écoute, c'est rigolo. On peut les accélérer, on peut changer les notes. Donc il y a une petite musique, c'est Twinkle Twinkle Star. Du coup à la place des ding 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 qui font boîte à musique, tu peux mettre des cochons. Donc ça fait enfin voilà, ça fait rigoler les enfants toujours ça. à l'époque, oui, c'est vrai, je devais avoir une dizaine d'années, ça me faisait encore marrer, ouais.
Tu rigolais pas comme ça, tu rigolais.
Voilà, c'est ça. Et puis, il y a un mini-jeu où, pareil, c'est pour apprendre à avoir une excellente dextérité à la souris. Donc, avec la souris, on contrôle une main avec une tapette à mouches et le but, c'est de tuer les mouches. Et
très bon exercice dans cette arrivée d'été, tu vois.
Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais un mal infini. Il y a trois niveaux. Hein. J'avais un mal infini à arriver déjà au troisième niveau et à le finir. Je crois que je l'ai fini genre une ou deux fois, mais vraiment aux dernières gouttes de sueur de mon front. Bon, là, je me le suis enquillé, mais les doigts dans le nez. Mais pareil, ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite pour ma fille. Donc, à réserver aux plus grands. Mais voilà. Donc, je trouvais que Mario Paint, c'était vraiment un outil ludique très intéressant pour avoir une première approche de la souris sans dire, bah voilà, t'apprends à cliquer, t'apprends à drag and dropper, machin, ça se fait naturellement. Quand tu fais un trait, bah forcément, ça s'assimile à du drag and drop. Le fait de cliquer, de bien pointer, tout ça. Et c'est super bien pris en compte par l'émulateur. Donc voilà, j'ai mis le lien vers un site d'émulation. J'ai pas mis le lien direct vers le téléchargement, hein, sinon c'est pas très légal. Mais voilà, j'ai mis le lien. Donc Mario Paint, que je vous conseille vraiment très très, très chaleureusement si vous voulez. Si vous voulez mettre votre enfant, enfin commencer à mettre votre enfant à la manipulation de la souris.
Ouais, puis ce sera quand même un peu mieux que le Paint tout court, oui, qu'on trouve dans les Windows. Quoique les dernières versions, oui, de Paint sont bien évoluées. Moi, j'ai souvenir de Paint sur Windows XP qui est, bah, en fait, c'est la même chose que Mario Paint, sauf que c'est catastrophiquement inutilisable, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais, c'est ça. Si, avec le Paint de maintenant, tu peux faire de la 3D maintenant. Oh,
c'est... Enfin, voilà. C'est vrai que ça a bien changé.
Ouais, ça a bien changé.
C'est toujours mieux que certains sites en Flash aussi.
Oui,
ou
aussi. Ouais. Après, je sais très bien qu'il existe des petites applis pour apprendre justement la manipulation de la souris, mais enfin c'est un peu moins ludique. Enfin là, je trouvais que c'est pas un truc fait pour ça à la base, et du coup c'est ça qui rend la chose intéressante, je trouvais.
Et puis tu l'as fait pour toi, la nostalgie, tu l'as.
Oui, aussi. Bon, alors par contre, la petite chose que j'ai pas dite, c'est si vous avez joué à Mario Paint étant jeune, rien que le fait de lancer le jeu, votre journée est fichue, vous avez la musique toute la journée dans la tête.
Problème des jeux Nintendo.
Voilà. Enfin voilà, donc c'était Mario Paint pour ma part, donc ça vous coûtera pas grand chose. David, toi tu es toujours dans. Ah bah vous êtes toujours dans une thématique animaux.
Oui, moi c'est la famille. En plus, ce sera entre les deux émissions, ce sera, oui, une thématique poule.
Oui, j'ai
donc,
vu ça.
Voilà, on est à fond dans les poules en ce moment.
Alors, vas-y, raconte.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez les livres qui sortent chez Pocket Jeunesse qui s'appellent Les Petites Poules.
Pas du tout, personnellement, ça ne me parle pas du tout.
Non, non.
Alors, ce sont des livres qui sont quand même pour les à peu près ceux qui ont à peu près 6 ans, qui commencent la lecture et qui racontent en fait des histoires de petites poules qui sont dans un poulailler à l'époque de Versailles. Et qui, il se passe plein de choses, et en fait, ça s'intègre dans beaucoup de sortes de contes. Il y a le petit chaperon rouge, il y a plein d'histoires comme ça qui sont intégrées, il y a tous les contes de fées un petit peu qui reviennent. Il y a beaucoup d'images aussi de peintures d'époque qui sont présentées, et où les petites poules sont dessinées de la même manière. Enfin, il y a un petit côté un petit peu culturel aussi dedans, comme ça. Alors pour des enfants, c'est quand même super, c'est pas évident, mais il y a une lecture vraiment pour adultes aussi. Et il y a énormément de jeux de mots et de double sens, en fait, dans les propos. Et bon, les enfants, forcément, ne comprennent pas toujours ces jeux de mots-là, mais l'histoire qui est racontée est très bien amenée, les dessins sont magnifiques. Et puis ça plaît vraiment. Moi, ma fille, elle scotche, quoi. Si je me trompe pas, il y a 15 livres, et on a les 14 premiers. Le 15e, on l'a pas trouvé encore, mais on va le trouver. Mais elle est accrochée à ces histoires là et c'est vraiment des choses, des petites histoires sympathiques. Les petites poules sont vraiment rigolotes, quoi. Il se passe toujours quelque chose,
voilà. C'est pour quel âge?
En principe, c'est à partir de 6 ans, mais ça peut être lu par beaucoup, okay, plus grand, parce que, je te dis, il y a vraiment des références cachées, il y a des tas de choses qui apparaissent, des jeux de mots subtils. Donc moi, je prends énormément de plaisir, en fait, à lire ces histoires-là à ma fille. Parce que moi aussi, ça me fait rire, tout bêtement. C'est complètement stupide, mais ça me fait rire. Et du coup, il y a un plaisir à deux à vraiment suivre ces histoires-là. Moi, donc là, c'est pas pour vous parler des livres que je vais. Voilà. Mais pour les 15 ans, je crois, de sortie des petites poules, ils ont sorti une application sur tablette. Donc moi, je l'ai sur Android, je pense que ça va être aussi sur iOS, qui est gratuite, forcément. Et c'est en fait un petit jeu tout simple où on peut jouer en famille. Et ça, en fait, ce sont des petites courses où on peut jouer avec les personnages des petites poules sur donc des terrains genre athlétisme, quoi. Et sur ces terrains d'athlétisme, il y a des petits obstacles. Et donc, on choisit le personnage que l'on veut. Vous avez dû entendre vibrer un truc, là ?
Oui.
C'est rien, je reçois des messages. Je suis sur mon téléphone, je précise. Donc, on choisit un personnage parmi les différents personnages proposés dans les petites poules. Alors, ils ne sont pas tous débloqués au départ. Comme les courses, d'ailleurs. Elles ne sont pas toutes débloquées. Et on choisit ensuite donc, le terrain sur lequel on veut courir. Et après, on démarre la course. La course, c'est tout simple. C'est, je crois, 3 ou 4 tours de ce terrain d'athlétisme. Et il y a des obstacles. Et on appuie sur son personnage pour le faire sauter par-dessus les obstacles. Mmh. Et on peut faire un appui court pour faire un saut court. Et on peut rester appuyé pour que le saut soit plus long. Donc, il y a déjà une technique à avoir pour que le personnage ne soit pas ralenti et gagne la course, quoi. Alors, on peut jouer au maximum à 4 joueurs en même temps sur la tablette. Parce que la course est au milieu et chaque personnage est dans un coin de la tablette.
Ah oui, c'est comme les hippogloutons.
Ouais, bah exactement, c'est le même principe que ça. Tu as tout à fait compris. Alors, dans la course, tu dois sauter, voilà, mais tu peux récupérer des bonus aussi. Et il y a 3 bonus dans ce. Il y a 3 pouvoirs, ce qu'ils appellent des pouvoirs. Tu as le popcorn rétrécissant. Alors, ce sont des pouvoirs qui sont liés aux histoires. Hein.
D'accord.
Donc, tu as le popcorn rétrécissant. Donc, ça, c'est simple, ça te ralentit ton personnage, puisqu'il est tout petit, donc il court moins vite. Mm-hmm. Ensuite, tu as le nuage aveuglant. Donc là, c'est un petit nuage qui est juste devant toi et tu vois pas trop bien les obstacles. Donc pour sauter, c'est plus compliqué. Alors pour un grand, c'est plus facile, même si des fois, tu as certaines courses, c'est pas si évident que ça. Et ensuite, tu as le monstre effrayant. Alors lui, il te fige. Voilà, donc tu peux plus sauter. Tu as continué à avancer, mais tu peux plus sauter. Ce qui veut dire que tu te prends les obstacles. Donc tu ralentis. Et tu finis pas premier de la course. Hein, voilà. Donc le but, c'est de finir premier de la course et d'arriver sur le podium. Le trait graphique des petites poules est conservé. Donc c'est le dessinateur des petites poules, c'est Christian Heinrich, je vous dis, le dessin est vraiment super. Et on retrouve, c'est vraiment repris, quoi. Et même dans le terrain, les obstacles, tout est refait à la manière de qu'on retrouve dans les dessins, quoi, des livres. Et c'est vraiment, vraiment efficace. Je disais que tout à l'heure, les personnages et les courses sont pas forcément Allô ?
Oui, oui, non, mais...
Ah oui, pardon,
on t'écoute religieusement, David.
On est tous, oui.
Excusez-moi. Non, je disais, donc, les personnages ne sont pas tous débloqués, les courses non plus. Et il y a un petit truc sympa, c'est que si on a acheté les livres, en fait, dans l'application, on va cocher les livres qu'on a récupérés. Déjà, ça sert un peu de bibliothèque et d'historique des livres qu'on a...
Tricher, en fait. T'es pas obligé de l'avoir pour dire je l'ai.
Oui, ça d'accord, mais c'est pas ça qui te débloque les personnages et les courses. Ce qui te débloque les personnages et les courses, c'est que tu vas scanner une page, page
de... Excellent, ça c'est super malin, je trouve. Ouais.
Alors, ça marche très bien sur la quasi-totalité, sauf que, et là, je suis un petit peu, c'est un peu dommage, il y a, par exemple, un des personnages que j'ai jamais pu débloquer parce qu'ils avaient en fait une image d'une des cases d'un livre qui j'ai l'impression que c'était fait soit ça a été refait après soit retravaillé après par le dessinateur et moi j'ai dans le livre je retrouve la même case mais elle est quand même différente, les traits sont pas les mêmes, il y a des plantes qui sont pas placées au même endroit. Il a retravaillé en fait le dessin, ce qui fait que quand t'arrives avec ton livre pour lui c'est pas la même chose. Donc ça a l'air assez précis quand même, hein, pour détecter vraiment. Mais après je trouve l'idée vraiment sympa. Et alors après tu peux quand même récupérer, débloquer tes personnages et tes courses en faisant justement plusieurs courses et plus tu en fais, plus tu as une barre qui t'annonce l'arrivée du prochain personnage qui est pseudo dessiné en nombre là, et tu vois à peu près à qui ça va être. Donc pour ceux qui connaissent, ils arrivent à retrouver. Alors du style, les noms des poules, c'est Coq en pâte, Coqueluche qui est toujours malade, celui-là. Mollet de coq, des trucs Bangkok qui se battent tout le temps, voilà. Donc c'est axé vraiment sur des jeux de mots comme ça et on retrouve vraiment cet esprit dans le jeu. Alors voilà, moi ma fille y joue à 3 ans, à 4 ans, donc parce qu'avoir 4 ans le mois prochain, et elle s'éclate, quoi, elle adore, et comme elle adore l'univers des petites poules, elle retrouve vraiment ses personnages favoris Et elle s'éclate là-dessus, et c'est gratuit.
Je trouve que l'idée de parce que enfin moi je sais pas si c'est le cas aussi de votre côté, mais quand je navigue sur le store pour les jeux pour enfants, j'ai droit à une arnaque organisée autour des achats in-app. Alors c'est le cas pour beaucoup de freemium et beaucoup de jeux qu'on peut utiliser. Mais alors pour les enfants, je trouve que c'est d'un abus de voir toutes les apps où il y a très peu de travail et très peu de contenu, et très très vite faut passer à la caisse pour avoir la suite. Il y a très peu de jeux qui sont payants à des prix comparables aux autres apps et qui sont utilisables pleinement pour les enfants. Et je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Et cette idée de scanner du coup des achats, non pas in-app, mais des achats externes qui nourrissent aussi la boîte et l'univers, je trouve ça super malin, quoi. Alors j'imagine si on a un peu débrouillard, mais c'est quand même très malin.
Alors il faut savoir que le jeu est édité par Pocket Jeunesse, donc qui édite des livres. Donc forcément, ils ont réfléchi au lien, et je crois que ça a été développé par une boîte qui s'appelle 12-21. Ouais, mais c'est un jeu tout simple, hein, mais vraiment amener ce côté. En plus, ça fait vraiment la petite gestion de la bibliothèque de ta collection des petites poules, quoi. Et c'est,
ouais.
Tu retrouves des personnages. Je le conseille pour ceux qui aiment. Et franchement, je vous conseille aussi de lire les livres des petites poules. En plus, ça vous fera des recommandations pour l'été. Voilà, c'est bien. L'été qui approche. Et c'est bien pour les parents et pour les enfants. Et bien, on peut s'amuser en famille, quoi.
Ok. Ok, ça a l'air plein de bon sens, ton truc.
Oui,
moi, je ne connaissais pas du tout, en tout cas. Je vais aller jeter un coup d'œil et tu vois comme quoi ça marche, parce que ça va me faire découvrir les bouquins.
Ouais, non, franchement, les bouquins, je conseille, hein, vraiment.
Bon, alors restons dans la ferme, Guillaume.
Sort of. Ouais, on va s'éloigner un petit peu de la ferme quand même, parce qu'on va. Moi, je vous propose qu'on aille se balader un petit peu dans les montagnes qui surplombent la ferme.
Ah, d'accord.
Depuis quelques temps, j'explore les jeux de plateau, de société, etc., mais collaboratifs, coopératifs, selon la façon dont vous les présenter. Et je trouve que il y a eu une forme de révolution dans le jeu de société classique, où il y a un paradigme tout simple, c'est qu'on ne s'affronte pas les uns les autres, mais qu'on joue contre le jeu. Et je trouve ça vraiment excellent.
Ouais.
Et donc, j'ai essayé d'explorer, il y a de ça pas mal de temps maintenant, ce qui pourrait s'appliquer à mon fils, qui donc a eu 5 ans là, en janvier. Et dans cette tranche d'âge, qu'est-ce qui existe? Alors bon, t'es vite déçu, parce que t'es très, très loin des systèmes coopératifs qu'on peut imaginer, nous, entre adultes. Mais j'ai quand même trouvé un truc. Alors, je l'avais découvert dans un magasin, et on a pu y jouer dans un salon du jeu à Amiens, comme quoi il se passe des choses à Amiens, c'est Sauve Mouton. Rien que le plateau est hyper sympa et très original, parce qu'en fait, c'est une montagne en 3D, donc on comprenait plutôt en carton, avec 3 étages horizontaux et un découpage vertical qui fait que les parties qui sont séparées. Si vous cliquez sur le lien dans les notes de l'émission, vous irez évidemment voir à quoi ça ressemble, vous allez très très vite comprendre. Et puis le but du jeu est tout simple, c'est de faire monter des petits moutons en bois jusqu'au dernier étage, à un endroit précis, à l'endroit où il y a le repère du berger, et tout ça en évitant de faire bouffer les moutons par un loup qui va se balader lui aussi dans la montagne. C'est coopératif parce qu'on peut jouer donc évidemment à presque autant qu'on veut finalement autour de la table à ce jeu-là, mais on joue tous contre le loup et pour les moutons. Et donc, on va jouer chacun un tour de rôle, une action parmi toutes celles qui sont présentes sur une petite dizaine de cartes, je crois, qui représentent des actions pour les moutons. Alors, tantôt, c'est des actions qui permettent de faire monter le mouton d'un étage. Parfois, ça lui permet de se décaler d'une case sur le côté. Parfois, on peut monter 3 moutons d'un étage. Donc, on peut jouer avec ces différentes actions-là. Et une fois qu'on a fait l'ensemble des actions proposées, on rebat les cartes et puis on recommence. Jusqu'à ce qu'on y arrive ou jusqu'à ce que le mouton ait lui-même bouffé tous les moutons. En parallèle, il y a les actions du loup, évidemment, parce que là, jusque-là, c'est pas très très intéressant. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une action, il y a aussi une action pour le loup. Et lui aussi, le loup, il a des actions du type se déplacer en hauteur ou revenir vers le bas, se déplacer sur le côté. Donc, il y a un côté très impression que le loup, comme ça, à tout moment, il peut venir bouffer une partie du troupeau. Évidemment, il y a des petits rebondissements. Hein. Un loup qui mange des moutons, ils ne sont pas définitivement mangés. Ils vont plutôt dans le garde-manger du loup. Donc, parfois, il y a des actions qui font que les loups peuvent s'en échapper du garde-manger. Et puis, inversement, quand on a sauvé certains moutons, ils ne sont pas définitivement sauvés. Parfois, il y a des actions qui font, notamment un aigle, qui renvoie le mouton sur la montagne. Enfin, bref. Et donc, ça rend ce jeu finalement très très simple, à la fois à prendre en main et à jouer, et en même temps il a ce côté coopératif qui est suffisamment poussé pour jouer à quelque chose de coopératif avec un enfant, sans pour autant en faire une usine à gaz. Et je trouve que du coup, sur cet aspect-là des choses, c'est très bien joué. Donc c'est des parties d'environ 20 minutes à peu près, évidemment c'est très très variable, c'est 20 minutes, il n'y a rien à lire, donc il n'y a pas besoin de savoir lire pour jouer à ce jeu-là. Mmh. Et petite note, c'est un jeu français qui se base sur des techniques de production qui sont respectueuses de l'environnement, avec du recyclage, du bois, du carton, je crois que c'est BioViva, si je ne me trompe pas, je n'ai pas mes notes là sous les yeux, mais je crois que la maison d'édition du jeu c'est BioViva, ils font que des choses qui sont basées sur ce principe-là, ne serait-ce que les règles, en fait c'est juste un papier qui est au bas de la boîte. Donc quand on l'achète, quand il est sous film, ben on a l'impression que c'est une boîte normale, quoi. Et en fait, le fond se détache et c'est la règle du jeu. Et d'accord, voilà, ça évite de rajouter un papier qui ferait d'habillage ou de règle du jeu. Ça fait les deux en un, quoi.
C'est bien BioViva Edition.
BioViva Edition, ils font un super boulot. Alors, visuellement on aime ou on n'aime pas, mais je crois qu'il y a une espèce de consensus sur le fait que ça donne quand même une bonne ambiance quand on regarde un peu les visuels, les cartes, et je pense que les enfants et de l'âge à partir de 5 ans vont assez vite accrocher. La mécanique est pour en tout cas des enfants à partir de 5 ans sans être pour autant inaccessible, et il y a encore une fois cet aspect partage d'un jeu coopératif que je trouve vraiment très original et que j'ai pas trouvé forcément dans beaucoup d'autres jeux. Il y a le côté aussi plateau en 3D en bois qui tourne d'ailleurs sur lui-même pour qu'on puisse en permanence pivoter autour de la montagne et voir ce qui se passe dans les quatre recoins de la montagne, qui rend le truc très original. De mémoire, je crois que ça coûte une trentaine d'euros. Donc, a priori, si vous avez des enfants de l'âge de 5 ans, vous aimeriez les faire toucher du doigt l'aspect coopératif sur des jeux de société, c'est probablement un bon investissement que je vous recommande.
Oui, c'est ça, 27,89. 27,89€.
Vous connaissiez, que ce soit BioViva ou Saut pas. Bouton David non plus. Non, ah bah, je suis content de vous faire découvrir
ça. Ce truc de la montagne en 3D, enfin, avoir un plateau de jeu en 3D, moi je trouve ça super.
Ça me rappelle
c'est super, c'est original, ouais.
Le quoi, l'attrape-souris David?
Vous vous rappelez pas le sort d'attrape-souris avec
Alors si, mais
ça me dit quelque chose.
Si voilà. Si, mais c'est. Non, parce que attrape-souris, t'avais un plateau qui était en 2D et c'était le piège qui était en 3D. Là, c'est vraiment ton plateau qui est sur plusieurs niveaux. C'est une montagne en volume, quoi. Donc c'est chouette.
Il y a une version d'ailleurs différente du jeu. Si jamais il y a des vicieux dans la famille qui veulent jouer à ce jeu-là et un peu sadique, un peu coquin, quoi. on peut aussi faire en sorte que le loup ne soit pas joué aléatoirement avec ses cartes, mais que un des joueurs interprète le loup. C'est moins coopératif, il y a le loup contre les autres, et tu tires deux cartes dans les actions du loup et tu choisis celle que tu veux que le loup fasse. Et l'objectif est le même, c'est que le loup arrive à dévorer plus de moutons que de moutons sauvés dans la bergerie.
Ok, il faut donc sauver le mouton Ryan.
Oh là.
Exactement, il y a un aspect.
Mon Dieu.
Bon, ok, eh bien voilà, donc on récapitule, je vous ai donc conseillé Mario Paint pour commencer à appréhender la souris quand on est petit et s'amuser à la création quand on est un peu plus grand. David vous a recommandé accessoirement des bouquins, mais le jeu qui va avec les petites poules. Et Guillaume, Sauve Mouton, un jeu de plateau en 3D collaboratif. Eh bien, c'est maintenant l'heure de nous quitter, mais pas avant de vous avoir demandé, messieurs, où on vous retrouve, même si on se revoit le mois prochain, où vous retrouve-t-on, commencez par Guillaume.
Merci. Alors, merci déjà pour l'invite, Jean et David, ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Alors, pour ceux qui veulent me retrouver, peut-être le plus simple, c'est guillaumevendée.me, il y a mon site, et il y a à peu près tous les liens vers où vous pouvez me retrouver sur Internet. Je m'amuse beaucoup avec Snapchat en ce moment, donc si vous voulez m'ajouter sur Snapchat, c'est Guillaume
Vendée. Tu sais comment on utilise Snapchat ?
Ouais, j'ai réussi parce qu'en fait, il y a un soir, je me suis dit, je vais faire comme ceux qui ont conçu l'application, je vais prendre un peu de drogue et ça marche très bien. Tu comprends très bien comment ça marche après. Et ça vaut le coup. Non, en fait, je trouve ça très sympa, du reste. Et puis, on peut me retrouver aussi, tiens, un petit coup de promo sur mon streetcast. C'est notre petit mouvement en ce moment où on raconte un peu notre life au jour le jour, dans des conditions de mobilité. Donc, c'est la voix de Guillaume. Vous trouverez ça à peu près partout sur les magasins de podcast.
Et ok. Et David, toi, où te retrouves-tu?
Moi, je vais, voilà, vous me retrouverez donc sur plopcast.fr, où c'est toujours le podcast sur la bande dessinée avec des interviews que je réalise. J'en ai réalisé une d'ailleurs de Philippe Thom, qui est le papa du petit Spirou. Donc,
qui est passionnante.
j'ai essayé. C'était ma deuxième interview, donc voilà, un petit peu d'intimidation quand même. Et puis après, vous me retrouvez aussi avec Guillaume Vendée dans le club JDR, donc qui est sur. Alors le site est un peu compliqué, mais je pense qu'en tapant club JDR,
oui,
vous allez voir.
On trouve facilement.
C'est techniquement très très mal géré d'un point de vue site internet, mais sur les stores de podcast, club JDR, vous le trouvez facilement.
Ouais. Voilà. Et on retrouvait donc en tant que nain, voilà. Ça faisait... dans une campagne avec Guillaume, qui est une prêtresse. Ça s'entend pas comme ça, mais.
Ouais. D'accord.
Absolument. Très suave, oui.
Ok. Tu gagnes des bonnets avec l'expérience.
C'est pour la prêtresse.
Ouais, c'est ça, oui. C'était un clin d'œil, Nalbuck. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter un bon mois. On se retrouve eh bien, courant de l'été. Hein, on se retrouve le 15 juillet. Eh bien, et d'ici là, n'oubliez pas que jouer, c'est bien, mais jouer ensemble, c'est encore mieux. Allez, ciao à tous.
Ciao. Ciao à tous. It's me, Mario. Non, mais j'aurais dû le faire tout à l'heure.